écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, minuit, ici, à Paris, 22h, temps universel.
24h en France sur RFI.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 24h en France. On va décortiquer ensemble pendant une demi-heure l'actualité française et rien que l'actualité française à tête reposée.
Stéphane Genest.
D'abord le journal avec à la une un très large dossier consacré à l'entre-deux-tours des élections législatives. À la percée du Rassemblement National qui inquiète, des milliers de personnes étaient réunies à Paris ce soir pour manifester. Et on va entre autres éplucher les programmes en ce qui concerne les retraites notamment. Dans 24 heures en France, on revient aussi sur la disparition à 101 ans de Roland Dumas, homme d'État français. Et puis dernière ligne droite, avant les JO de Paris, cérémonie d'ouverture, ce sera le 26 juillet prochain.
24 heures en France.
Ils étaient des milliers ce mercredi soir, place de la République à Paris, grand rassemblement dans le but d'appeler au vote contre l'extrême droite lors du second tour des élections législatives, ce sera dimanche. Manifestation à l'appel d'artistes, de militants, de syndicats ou encore d'associations. Plusieurs figures se sont exprimées au micro, à la tribune, devant ces participants que Marie Cazadebet a interrogé.
Ça fait peur et puis ça rend en colère parce qu'on se rend compte que les gens ont oublié l'histoire et ont oublié leur cours de collège.
La peur et la colère, moi je dirais, de voir une partie de la France qui renie les valeurs de la République juste pour sanctionner une politique.
C'était important de venir avec ma fille qui se dit régulièrement que vivre en France, ça va être de plus en plus compliqué. Ça m'inquiète aussi pour ses études et pour ses engagements politiques futurs.
Je vis dans des quartiers avec des immigrés, etc. Et je me dis que ces personnes-là peuvent être en danger si ce gouvernement passe. Donc ça m'importe beaucoup d'être présente ici et surtout de représenter la jeunesse parce que c'est à nous de prendre la relève après.
Des participants à ce grand rassemblement contre l'extrême droite ce mercredi soir à Paris au micro RFI de Marie Cazadebet. Et pendant ce temps-là, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, Gabriel Attal, le Premier ministre, chef de file du Parti présidentiel Ensemble, et Marine Tondelier, la patronne des Verts, se sont succédés chez nos confrères de BFM TV, succession d'interviews. Et on va se pencher un peu plus sur les programmes des candidats, focus sur les retraites, puisque chaque parti est revenu sur la réforme des retraites qui fixe l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62 précédemment. Adoptée l'an dernier par la majorité présidentielle, elle avait entraîné un vif mouvement de contestation populaire. Alors, que proposent les trois grands blocs en lice pour le second tour, le RN, le Nouveau Front Populaire et le camp présidentiel? Réponse de Camille Salcedo-Ruiz.
Abroger immédiatement la réforme des retraites, c'est ce que promet le nouveau Front Populaire. Il souhaite revenir à un âge de départ à 62 ans. L'Alliance de gauche envisage même à terme une retraite à 60 ans. De son côté, le Rassemblement National a changé de position ces derniers jours. Le parti met l'accent sur les carrières longues. Il voudrait que les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans et cotisé 40 annuités puissent partir à 60 ans. Pour les autres travailleurs, l'âge légal de départ à la retraite serait fixé à 62 ans et pourrait aller jusqu'à 66 ans selon l'âge de début de carrière. Le camp présidentiel, quant à lui, maintient le cap de sa réforme passée en force en mars 2023 après des mois de contestation. L'âge de départ à la retraite passerait donc comme prévu de 62 à 64 ans d'ici à 2030. Le taux plein serait garanti à 67 ans. Le seul changement annoncé, ce serait d'augmenter le montant des retraites en l'indexant sur l'inflation.
Et c'est dans ce contexte d'entre-deux-tours que des représentants du culte musulman et des personnalités de la société civile se sont réunis ce mercredi pour appeler les Français à faire barrage au Rassemblement National. Ils ont à cœur de lutter contre l'extrême droite dont la montée dans le pays suscite des inquiétudes. Reportage signé Aram Beng.
Appeler à la mobilisation et exprimer une volonté commune de défendre les valeurs de la République, c'est l'un des objectifs des participants à la conférence. Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris.
Nous appelons d'abord à la mobilisation de tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances ou leurs origines, pour le second tour des élections législatives. Nous appelons ensuite à défendre les valeurs républicaines dans les urnes.
Valeurs républicaines qui, selon Myriam Eladji, professeure de médecine à l'hôpital Raymond Poincaré, sont mises à mal par le Rassemblement national.
La fraternité, l'égalité et la liberté sont nos valeurs qui nous unissent. Dans le débat actuel, l'égalité, c'est la valeur qui est mise en cause. Quand nous écoutons les discours du RN, nous avons l'impression non plus d'être côte à côte en tant que citoyen français, mais d'être mis face à face. En tant que membre de la société civile, je trouve que s'engager dans la période actuelle fait sens.
Les participants à la conférence rappellent la nécessité de ne pas accepter que des politiques séparent la nation en catégories ethniques ou religieuses pour ensuite les dresser les uns contre les autres.
Et cet entre-deux-tours est très tendu. Ce mercredi soir, on apprend que la porte-parole du gouvernement affirme avoir été victime d'une agression lors d'une opération de collage d'affiches. Agression également il y a une semaine d'un jeune membre de la Ligue de défense juive dans le métro parisien. 8 membres du groupuscule d'ultra-gauche antifasciste La Jeune Garde ont été mis en examen pour violence en réunion en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion, Pierre-Olivier.
Les faits remontent au 27 mai dernier. Ce soir-là, vers 20h, un garçon de 15 ans qui voyage sur la ligne 2 du métro est soupçonné par des membres de la Jeune Garde d'appartenir à la Ligue de défense juive. Selon le parquet de Paris, l'adolescent aurait été insulté et intimidé par des gestes violents sans qu'il ne soit fait état de contact physique. Ses agresseurs lui auraient ensuite demandé de scander « Vive la Palestine » et diffuser la vidéo sur le compte Instagram de la Jeune Garde. 12 jours d'incapacité de travail en raison du retentissement psychologique seront prescrits au jeune homme. Cette agression serait intervenue après des tensions devant l'université Dauphine entre des personnes venues assister à une prise de parole de Rima Hassan, alors candidate LFI aux élections européennes, et d'autres souhaitant leur en bloquer l'accès et présenter comme des membres de la Ligue de défense juive. De son côté, la Jeune Garde ne dément pas une altercation mais sans violence physique et dénonce les moyens disproportionnés utilisé par la justice dans ce dossier, alors que les 8 agresseurs présumés sont toujours sous contrôle judiciaire.
Pierre-Olivier, voilà ce que l'on peut vous dire sur cette actualité politique en France et on y revient juste après le journal dans 5 minutes dans 24 heures en France.
24 heures en France.
L'actualité de ce mercredi est également marquée par la mort de Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères est mort donc ce mercredi à l'âge de 101 ans. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, salue un homme qui a marqué de son empreinte l'histoire de la Ve République. Retour sur le parcours de Roland Dumas avec Anthony Latier.
Sa carrière, Roland Dumas l'a construite main dans la main avec François Mitterrand. Les deux hommes se rencontrent dans les années 50 et ne se quitteront plus. Avocat pour le Canard enchaîné, Roland Dumas défend le futur président dans la trouble tentative d'attentat de l'Observatoire. Élu, François Mitterrand nomme Roland Dumas ministre des Affaires étrangères. Il axe résolument sa politique et ses réseaux vers le monde arabe. Comme un dernier cadeau, François Mitterrand fait de son vieil ami le 6e président du Conseil constitutionnel. Mais Roland Dumas a bien du mal à être sage et valide les comptes de campagne manifestement irréguliers de Jacques Chirac avec une formule « Je suis convaincu que j'ai sauvé la République ». 4 ans après sa nomination, il est rattrapé par la justice, cité dans ce qui deviendra plus tard l'affaire Elf, tombé pour une paire de bottines Berluti achetée par sa maîtresse avec la carte bleue de l'entreprise à l'époque où il était encore ministre. Roland Dumas sera condamné puis relaxé. Mais avec l'âge, Roland Dumas préfère à la discrétion l'irrévérence et ne cache pas ses amitiés. Kadhafi, Dieudonné ou encore Laurent Gbagbo qu'il soutient en 2010. En 2015, il soupçonne le Premier ministre Manuel Valls d'être, je cite, « sous influence juive ». Énième scandale pour cet homme politique aussi sulfureux que charismatique.
Anthony Latier, le cinéaste Benoît Jacquot, mis en examen ce soir pour viol, placé également sous contrôle judiciaire. La comédienne Isilde Lebesco et l'actrice Julia Roy accusent le réalisateur de violences sexuelles. RFI minuit 9 à Paris, plus de 200 mineurs isolés qui occupaient la maison des métallos dans la capitale depuis avril ont donc été relogés ce mercredi. Ils ont été répartis dans plusieurs gymnases de la capitale et attendront à l'abri à la décision concernant leur reconnaissance de minorité. Et d'ici là, ils pourront continuer à suivre des cours au collège ou encore au lycée. Et s'ils ont été évacués, c'est parce que la maison des métallos est un bâtiment municipal qui doit être utilisé pour la délégation du Japon aux Jeux Olympiques de Paris. Julien est le délégué du collectif des jeunes du parc de Belleville.
Nous ne sommes pas là pour la délinquance. Nous réclamons seulement notre droit d'y être pris en charge comme tous les enfants français, comme toute la jeunesse française. Avoir droit à l'école, avoir droit à une éducation et avoir une meilleure vie. C'est notre but. Aujourd'hui, la mairie, ils ont décidé de nous mettre à l'abri, mais pas dans un gymnase. Le gymnase, ce n'est pas un lieu de vie, mais c'est quand même un peu mieux qu'être dans la rue sous des ponts. Et aussi, ils ont dit pendant les JO, on peut rester dans les gymnases 24 heures sur 24 heures.
Paris qui se prépare aussi à l'arrivée des touristes, donc pour les Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture, qui je vous le rappelle, est prévue le 26 juillet prochain. Paris qui est à la fête, mais les hôteliers, eux, font grise mine. C'est en fait le calme plat depuis le début du mois de juin. Déception qui est grande chez les professionnels que vous avez rencontrés, Juliette Penn.
Derrière son ordinateur, Kevin Richard, patron d'un hôtel 3 étoiles dans le 11e arrondissement de Paris, fait le point sur ses réservations. Il arrive enfin à remplir son hôtel, non sans mal.
On avait démarré des prix entre 5 et 600 euros. Là, les prix ont été divisés par 2, voire 3. On est aux moyennes, nous, maintenant, à 225 euros. C'est pas du tout la folie qu'on attendait, quoi.
Quelques rues plus loin, dans son petit hôtel du Marais, la gérante Ornelia Benichou a elle aussi baissé ses prix, mais rien n'y fait.
Sur juillet et août, on n'est pas rempli. Donc on est assez déçus parce que même sur les chiffres sur les mois passés, il y a une grosse baisse.
La faute aux difficultés de circulation dans la capitale à l'approche des JO.
Les clients qui habituellement viennent pour du tourisme classique, se disant que ça allait être un peu le bazar, ils préfèrent ne pas venir en tout cas cette année-là.
Mais ce n'est pas la seule raison, selon David Zenouda, vice-président de l'UMIL de France, le syndicat des hôteliers.
La période Jeux Olympiques et Paralympiques attire plus un tourisme franco-français à 75-80% et dont la moitié de franciliens. Donc du coup, ça joue évidemment sur l'hébergement.
Malgré tout, il reste positif et espère qu'après les Jeux, Paris attirera les touristes encore plus qu'avant.
Le reportage de Juliette Penn pour RFI. RFI minuit, pratiquement 12 minutes. Ici à Paris, nous sommes le jeudi 4 juillet 2024. C'est la fin du journal, mais on reste ensemble pour la seconde partie de 24 heures en France. Et on en parlait dans le journal du second tour des élections législatives ce dimanche avec ce chiffre, 221 désistements pour faire barrage au Rassemblement national. C'est plus que ce que laissaient entendre certains discours dimanche soir, mais il reste donc quelques dizaines de circonscriptions où le fameux Front républicain n'a pas fonctionné. L'invité d'Anne Cantner, dans RFI Midi, va nous aider à mieux comprendre les effets possibles sur l'issue du vote de dimanche. C'est Frédéric Michaud, directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway, qui était l'invité de RFI Midi.
Qu'est-ce que cette nouvelle donne électorale, ces désistements, changent aux prévisions de vote ?
Ça change énormément de choses. D'abord parce qu'une triangulaire, c'est beaucoup plus imprévisible qu'un duel. C'est beaucoup plus facile à la fois pour l'électeur de se positionner quand il a seulement deux choix possibles que quand il en a trois. Et puis, du point de vue des instituts de sondage, ça clarifie l'offre électorale et donc ça facilite les prévisions électorales.
Donc j'en déduis que vous avez une idée plus claire de ce qui peut se passer dimanche. Est-ce que le Rassemblement national peut encore obtenir une majorité absolue ?
Alors, on est en train, en ce moment même, de mesurer les intentions de vote. On attendait la validation officielle des candidatures pour le second tour qui est intervenue hier soir en fin de journée à 18h. Donc là, les intentions de vote sont en cours de réalisation. On fera des prévisions à partir de demain. Mais on a déjà une idée du positionnement des électeurs dans les différentes configurations. Ce qu'on peut déjà noter, c'est que le Front républicain, donc cette stratégie de désistement qui vise à bloquer le Rassemblement national, devrait avoir des effets au plan plan électoral et devrait bloquer toute une série de députés du Rassemblement national, en tout cas interdire leur élection. Donc on peut faire l'hypothèse que le nombre de députés dans la future assemblée dimanche, le nombre de députés du Rassemblement national sera très inférieur à celui qu'il aurait pu être si ces désistements n'avaient pas eu lieu.
Ça veut dire que l'extrême droite inquiète encore, que le Front républicain existe encore, parce qu'on a pu en douter quand même dimanche soir et au tout début de la semaine.
Oui, alors on sait quand on regarde l'histoire électorale française que le Front républicain marche de moins en moins bien. C'est évident au second tour de l'élection présidentielle. Jacques Chirac avait été réélu avec un score extrêmement élevé de 82%. Emmanuel Macron, 15 ans plus tard, avait été lui aussi élu, mais avec un score beaucoup plus faible. Et puis en 2022, le Front républicain avait encore permis à Emmanuel Macron d'être réélu à la présidence de la République, mais là aussi avec une efficacité plus faible. Donc d'élection en élection, le Front républicain s'émousse. Mais tout de même, jusqu'à présent, il est parvenu à remplir peu ou prou les objectifs qui lui étaient affectés. Alors, il y a eu des difficultés à mettre en œuvre ce Front républicain, mais le fait est que le nombre de désistements est considérable. Le nombre de triangulaires a été divisé par trois. Le nombre de duels devient très élevé. Donc les appareils politiques ont fait en sorte de mettre toutes les chances de leur côté pour battre le Rassemblement national.
Frédéric Michaud, directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway, il était l'invité d'Anne Cantner dans RFI Midi, minuit 16, ici à Paris. Et on poursuit notre page consacrée aux élections législatives. Après la grande victoire du RN au premier tour, certains citoyens révoltés de voir l'ascension de l'extrême droite sur leur territoire se mobilisent. Illustration dans 24 heures en France, dans le département rural du Loiret. C'est à une centaine de kilomètres au sud de Paris où des agriculteurs, des professeurs, des lycéens se sont spontanément regroupés. Le collectif Loiret Soulève-toi distribue des tracts, informe et organise des débats ou des repas partagés avec les locaux. Ce mercredi, ils se sont invités sur le marché de Château-Renard, c'est près de Montargis, pour discuter politique avec les habitants. Amélie Beaucourt était du voyage reportage.
Bonjour madame, on fait un débat citoyen dans l'espace public. On demande aux personnes qu'est-ce qui les pousse à voter.
Une simple question pour ouvrir la discussion entre deux stands de fruits et légumes. Une retraitée se plie au jeu, mais la conversation prend vite un autre tournant.
On a des étrangers, je suis d'accord. Ceux qui bossent, qui travaillent, qui ont leur boulot. Ceux qui foutent rien, ils ont qu'à retourner chez eux.
Qu'est-ce que vous appelez étranger déjà ?
Mon compagnon, il avait sa fille qui était avec un noir.
Enfin, un noir, il peut être de nationalité française.
C'est possible, je vous dis pas
donc
le contraire.
Donc on ne sait pas déjà s'il est étranger ou pas.
Non, mais on les aide.
Mais il n'y a aucun chiffre qui prouve que les personnes étrangères sont plus aidées que les Français.
À Château-Renard, village de 2000 habitants, le Rassemblement national était en tête dans les urnes le week-end dernier. Merle, 77 ans, voit l'extrême droite gagner du terrain depuis des années.
C'était un sentiment très déplaisant, oui. De penser qu'il y avait des gens dans une petite commune rurale où il n'y a pas un immigré. De comprendre pourquoi les gens vont voter pour quelque chose qui est pour l'exclusion. Mais je pensais que ça allait arriver plutôt en 2027 que maintenant.
Avec le collectif Loiret Soulève-toi, sortie de terre face à l'urgence des nouvelles élections, elle refuse de laisser ce discours s'insinuer dans la tête de ses voisins.
On vient parler aux gens, on trouve que le dialogue est très important.
Et globalement, le dialogue, il est possible ?
Je vois les jeunes qui sont là, qui discutent avec les gens, oui.
Vous avez des trucs très arrêtés. Pour des jeunes, je trouve qu'il y a franchement...
Les jeunes, ils ont toujours des idées bien arrêtées, hein. Ouais.
Il y a des vieux, ils ont bien des idées arrêtées aussi. Alors, vous voyez, il y a deux extrêmes aussi.
À quelques mètres, Valentine, 20 ans, a quitté Lille où elle étudie pour revenir donner un coup de main sur sa terre natale.
C'est comme ça qu'il faut parler aux gens, leur montrer qu'on les écoute, qu'il n'y a pas de souci, qu'on est ouvert, qu'on ne va pas contredire tout ce qu'ils vont nous dire, qu'on a le sourire, qu'on est là pour discuter et voilà. Passer un bon moment quand même, malgré tout ce qui se passe.
Je comprends totalement que ce qui vous arrive et tout, c'est injuste. Oui. Et c'est pas parce qu'on va enlever les aides sociales que ça va arranger, vous, votre situation.
Depuis trois semaines, ce mouvement citoyen spontané et intergénérationnel dénonce les fausses informations de l'extrême droite pour espérer, à défaut de convaincre, mettre du doute dans un discours pour peut-être changer la couleur du bulletin ce dimanche.
Le reportage France d'Amélie Beaucourt à Château-Renard, dans le Loiret. À Château-Renard, il est minuit 19, midi 19 à Papeïté. Le journal des Outre-mer avec Odan Agiali à la une, la mobilisation des fonctionnaires d'État en Polynésie. Bonsoir Odan.
Bonsoir. En Polynésie, les fonctionnaires d'État toujours mobilisés contre le nouveau dispositif de retraite qui doit entrer en vigueur à horizon 2028. Cette nouvelle cotisation volontaire de retraite doit remplacer l'actuelle ITR, indemnité temporaire de retraite. Réunis en intersyndicale, ils demandent un traitement équitable des retraites entre eux, les fonctionnaires du Fénois et ceux de l'Hexagone. Joanne Teihipo, secrétaire générale du syndicat Police 2000, avec Théophane Théry-Toi.
Ce qu'on demande clairement à l'État, c'est tout simplement de pouvoir bénéficier d'une retraite, d'une pension civile indexée sur le coût de la vie en Polynésie française. Donc tout simplement, si on suit la loi et les décrets, qu'on puisse toucher 75% dernier traitement, donc 75% de nos derniers salaires indexés. Voici ce qu'on demande clairement à l'État, de revoir en fait le calcul qu'ils font sur nos retraites pour qu'on puisse bénéficier d'une retraite indexée. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'auparavant, grâce à l'ITR qui aujourd'hui tend à disparaître, les fonctionnaires d'État bénéficiaient d'une retraite à 75%, à peu près entre 70 et 75% de leur dernier traitement. Ça venait compenser, on va dire. L'ITR venant à disparaître, l'État a proposé une mesure qu'on appelle la CVR pour venir compenser en fait cette perte de l'ITR. Alors aujourd'hui, si on la calcule, équivaudrait à 40% de notre dernier salaire. On peut pas accepter, puisque nos collègues métropolitains en France touchent bien 75% de leur dernier traitement. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui en fait. On demande pas de faveur, on demande juste un réajustement du calcul de nos retraites.
Les Antilles françaises touchées par le passage du cyclone Beryl en début de semaine. Pas de victimes à déplorer en Martinique et en Guadeloupe, mais de nombreux dégâts matériels qu'il reste encore à chiffrer. Un ouragan en tout cas très puissant et très tôt dans cette saison cyclonique. Alors les Guadeloupéens sont-ils prêts à faire face à d'autres phénomènes? Josiane Champion s'est rendue dans un magasin de bricolage aux Abîmes. Son reportage.
Le contreplaqué que vous m'avez demandé, c'était pour poser où exactement?
C'est pour obstruer une fenêtre qui a été démontée et comme on est en temps de pluie, donc la maison est presque inondée et plus le vent.
Vous êtes en travaux en fait?
Exactement, en rénovation.
C'est vrai qu'il y a eu un peu de vent hier avant-hier et pas mal de pluie et du coup ça m'a permis de sortir un petit peu, de regarder dans mon jardin et de jauger si tout était en ordre justement pour les futurs cyclones.
Dès que j'entends le cyclone, ça me fait un petit coup quoi, parce que ma maison, j'habite une maison individuelle et où j'habite, ça prend de l'eau. On n'est pas tranquille. Hein.
Vous protégez vos fenêtres aussi ou...
Enfin, s'il y a un gros cyclone, mais on va essayer de faire tout pour pouvoir protéger la maison. J'ai déjà le contreplaqué. Ça fait déjà un moment. Hein. J'ai mis ça à côté et puis je me suis dit si un jour il y a un gros cyclone, ben, je vais mettre le contreplaqué.
Xavier, je suis chef de département, outillage, quincaillerie, etc. On savait que la saison allait être un peu mouvementée, donc on a anticipé justement sur tout ce qui est planche, tabletterie, tout ce qui est renfort, les tasseaux, etc. pour que la population puisse avoir de quoi se protéger, se mettre à l'abri. On a reçu plus tôt et avec plus de volume.
Justement, les gens attendent en général qu'il y ait une alerte sérieuse.
Les gens préfèrent investir quand c'est sûr, quand il y a la menace, elle est vraiment confirmée. Une fois qu'on sait bien que le cyclone passe, généralement le réflexe des clients, c'est de venir pour faire découper des planches de bois aux dimensions des fenêtres pour pouvoir protéger toutes les surfaces vitrées.
Vous avez vu, j'achète un gros.
Ce sont des vis pour des tôles.
Oui, oui. C'est pour faire des poulaillers pour mes poules.
Ah, rien à voir avec le cyclone.
Rien à voir avec le cyclone. Ma maison est protégée déjà. J'ai des volets où là, tout est clôturé chez moi. Après, quand on va savoir à quelle vitesse que vient le vent, on verra.
Le reportage de Josiane Champion. Et puis on a appris ce mercredi le décès de Roger Boulet à l'âge de 80 ans. L'ethnologue spécialiste du Pacifique a consacré une partie de sa vie à l'inventaire des objets Kanak, objets dispersés dans les musées du monde entier. Des recherches compilées notamment dans un ouvrage intitulé « Les carnets Kanak ». Son ancienne collaboratrice Marianne Tissandier salue le travail immense de Roger Boulet.
C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'art océanien, mais en particulier sur l'art kanak. C'est grâce à lui et à Emmanuel Casarero, mais c'est lui qui avait lancé cet inventaire du patrimoine kanak dispersé, qu'il avait commencé dans les années 80 à la demande de Jean-Marie Tchibaou, et qu'il a continué jusqu'à ces derniers jours, parce que je l'avais rencontré dans le cadre de mon travail au musée à la fin des années 90, et j'ai travaillé avec lui sur cet inventaire du patrimoine kanak dispersé, et je sais qu'il travaillait encore dessus et il continuait à faire des conjectures, à réfléchir sur l'art kanak jusqu'à récemment quoi. Et c'est grâce à lui qu'on a maintenant une base de données en ligne et des gros inventaires qui permettent de savoir quels sont les objets kanak dans la plupart des musées du monde.
Des propos recueillis par Caroline Antique-Martin. Et c'est la fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Odana Géali. Très bonne soirée à vous aussi.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Le Conseil Santé de 24 heures en France sur RFI pour prendre soin de vous et soin de vos proches. Et on revient précisément sur le fait d'être incompris avec vous, Chantal Leroux.
Docteur Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste à Paris. Qu'est-ce que le sentiment ou la conviction d'être incompris peut avoir comme conséquence en termes de santé mentale ?
Mais c'est souvent extrêmement douloureux parce que c'est très fréquemment chronique, c'est-à-dire qu'on se sent constamment incompris par certaines personnes, surtout les proches, les collègues, etc. Et ça peut aller jusqu'à une dépression.
À quel moment ce sentiment d'être incompris, justement, exprimé par quelqu'un de notre entourage, doit alerter ? Quels sont les signaux ? Juste le fait que la personne vous dise « personne ne me comprend, je me sens incompris ».
Alors, lorsque on reçoit une critique, par exemple, c'est important de voir si elle semble réaliste. Si beaucoup de personnes nous disent la même chose, ton comportement quand tu fais ça est désagréable, quoi. Bon, là, on peut se poser la question de ce que l'on fait qui peut déplaire. Mais il y a aussi des tas de critiques qui sont fausses. C'est-à-dire que la personne qui critique ne supporte pas que l'autre soit différent. C'est-à-dire que il faut faire très attention de ne pas se dévaloriser lorsqu'on est critiqué, même souvent par plusieurs personnes. Il faut savoir ce que ça signifie. Et perdre confiance en soi, c'est vraiment très embêtant.
Dans ce cas, il est impératif d'aller consulter, de se faire aider ?
Alors, impératif, c'est difficile parce qu'il y a quand même pas suffisamment de médecins ni de psychiatres, donc c'est difficile. Mais au moins savoir que on n'a pas forcément tort, on peut être différent des autres. Souvent, il faut assumer cette différence. Et si on trouve qu'on est souvent critiqué en disant « tu es agressif », etc., c'est se remettre en question. Et vraiment, ce qu'on a tous intérêt à faire, c'est donner notre mode d'emploi, expliquer et demander à l'autre ce qu'il attend de nous. On n'est pas obligé de faire ce que l'autre attend de nous, mais au moins la discussion, sans agressivité.
Merci beaucoup, docteur Marie-Claude Gavard. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlerons du bégaiement.
Merci beaucoup, Chantal Leroux. C'est ainsi que se referme cette édition de 24 heures en France. Aux manettes ce soir, Olivier Roux. Merci à lui. Afrique Soir, c'est dans 3 minutes, mais en attendant, on va à New York pour faire un point sur la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones perd 24 points et revient à 39 308 au terme d'une séance écourtée afin de laisser les traders partir en week-end prolongé du 4 juillet. L'indice du Nasdaq, lui, avance de 160 points et atteint 18 188, ce qui est un nouveau record. Le choc du jour vient de l'indice ISM. Il indique un effondrement de l'activité dans les services aux États-Unis au mois de juin. On retrouverait ainsi le plus bas niveau d'activité dans ce secteur dominant de l'économie américaine depuis mai 2020. Si l'on ajoute à cela le fait que l'activité dans le secteur manufacturier au mois de juin s'est contracté, et ce pour le troisième mois consécutif, on en conclut que les signes apparents de ralentissement se multiplient aux États-Unis, et il faudra voir si ces indices, qui reposent sur des sondages, sont confirmés au cours des prochaines semaines par des mesures plus concrètes de la production, des commandes, des investissements ou de la demande de crédit, par exemple. La bonne nouvelle, pour le troisième mois consécutif, la composante de l'indice ISM des services relative au prix payé par les sociétés pour leurs fournitures, cette composante recule. Pour le marché obligataire, c'est un signe de plus qui encouragerait la Banque centrale des États-Unis à abaisser son taux directeur peut-être dès le mois de septembre. Cela se traduit par un plongeon à 4,35 du rendement du T-bond à 10 ans. Le dollar est le grand perdant, l'euro remonte à 1,0780, le baril de pétrole américain profite de la faiblesse du billet vert pour remonter de plus d'1% à près de $84. Aujourd'hui, le Dow Jones cède 0,1%, mais le Nasdaq avance de 0,9%, ce qui lui permet d'établir un nouveau record. Demain, jeudi, fête nationale aux États-Unis, les cotations à Wall Street reprendront vendredi.
C'était la bourse avec Pierre-Yves Dugas, comme tous les soirs, pour refermer 24 heures en France sur RFI. On reste ensemble, puisque dans moins d'une minute, maintenant, toute l'actualité du continent africain, avec Zéphir Nkwadio, dernière édition d'Afrique Soir. On sera en Tunisie, après l'annonce de la date de la présidentielle. Les formations politiques s'interrogent pour savoir qui envoyer à la présidentielle.
Appelez-nous, exprimez-vous. Chantal Leroux.
Joe Biden est-il apte à exercer un second mandat ? Depuis sa prestation calamiteuse face à Donald Trump, des poids lourds du Parti démocrate s'interrogent publiquement sur l'état de santé du président. Qu'en pensez-vous ? Joe Biden doit-il se retirer ? Et qui pour le remplacer dans la course à la Maison-Blanche ?
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.